Frères et sœurs, bonjour chers amis. Ce matin, nous entamons le chapitre 7 du livre de Daniel. Et donc, les chapitres 1 à 6, c'était la partie narrative des différentes expériences de Daniel où il interprétait les songes du roi Nebuchadnezzar. Il a été éprouvé comme ses compagnons à la limite de la mort, ses compagnons dans la fournaise ardente, lui dans la fosse aux lions. Mais sa foi en Dieu a tenu bon, et ces 6 premiers chapitres nous ont montré que Dieu est souverain et qu'il dirige tous les événements, même ceux qui nous dépassent. Et maintenant, nous arrivons dans la partie prophétique où Dieu va directement se révéler à Daniel et lui décrire ce qui va se passer dans la suite des temps. Alors, nous sommes maintenant au chapitre 7 et je commence la lecture au verset 1. Donc dans ce chapitre, Daniel a une vision, il voit 4 animaux, il voit aussi le Fils de l'homme. Daniel chapitre 7, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre, et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Le premier chapitre du verset 1 nous permet de situer le mouvement du songe. Nous lisons que la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe. Nous sommes donc dans la première année de Belshazzar. Et l'histoire situe cette première année en 553 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, Daniel avait déjà vécu 52 ans à Babylone. Parce qu'il est arrivé à Babylone, il était un adolescent. Il est arrivé lors de la première vague de déportation en 605. Et si vous faites 605 moins 553, vous trouvez 52 ans. Étant adolescent à l'arrivée à Babylone, il a environ 70 ans. Il faut remarquer aussi que l'on fait un recul dans le temps. Il nous est parlé de la première année de Belshazzar. Le chapitre 6 nous parle de Darius. Donc on est avant le chapitre 6, plus précisément entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Alors, vous avez vu comme moi que le chapitre 7 utilise un langage symbolique, bien marqué. Les symboles, des fois, peuvent exprimer plus facilement des réalités. Mais l'interprétation des symboles doit se plier au contexte de l'époque, contexte politique, contexte religieux, contexte culturel. Nous, au XXIe siècle, la vision de ces animaux étranges et hybrides nous perturbe, nous déroute. Qu'est-ce que ça peut être un lion avec des ailes d'aigle ou un léopard avec 4 ailes sur le dos? Mais à l'époque de Daniel, à Babylone, les animaux hybrides étaient chose courante. On retrouvait sur les murs de la ville des bas-reliefs avec des animaux étranges. Et les habitants de Babylone savaient bien ce que cela signifiait. Ces animaux représentaient des puissances politiques et religieuses. Donc, au verset 2 jusqu'au verset 3, Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Dans l'Ancien Testament, la mer représente souvent le monde païen. Les Hébreux étaient traditionnellement des cultivateurs, des bergers, ils n'étaient pas des navigateurs. La mer représentait pour eux l'inconnu, c'était le voyage vers l'étranger. Et cela était particulièrement vrai pour la grande mer, qui est en fait la Méditerranée. Alors, au commencement du rêve, 4 vents du ciel, symbole des 4 vents qui soufflent à l'horizon, dans les 4 coins de l'horizon, les 4 points cardinaux, 4 vents venant du ciel soufflent en même temps sur la mer. Mettez-vous à la place de navigateur, subitement, le vent souffle sur la mer et c'est la tempête. Les flots sont déchaînés. Les embarcations sont secouées et on peut même chavirer. La tempête se déchaîne. Et voilà, quatre animaux hybrides, nous avons vu, surgissent hors des flots. Ils semblent sortir des profondeurs de la mer, dans les abysses, où on ne va pas, le monde inconnu, et il y a là un peu de danger. Remarquez que les animaux sortent de la mer, mais aucun n'est aquatique. Il y a un loup, enfin il y a un lion, il y a un ours, il y a un léopard. Ces animaux-là ne sont pas aquatiques, et pourtant, ils sortent de la mer. On voit aussi que ces animaux occasionnent des ravages sur la terre. Ils mangent, ils dévorent, ils mangent du sang, donc ce sont des animaux impurs pour les Juifs. Ils sont carnivores et dangereux pour l'homme. Leur taille aussi est impressionnante. Il nous est parlé d'animaux, de grands animaux. Et ça inspire la crainte. Le lion et le léopard sont de gros félins. L'aigle est un oiseau, un des plus gros rapaces. Donc ce sont des animaux hybrides. Et dans la Bible, le mélange des espèces n'est jamais considéré comme un avantage. Ce n'est pas considéré favorablement dans les Écritures. Par exemple, diverses semences ne pouvaient pas être semées dans le même champ, Deutéronome chapitre 22, verset 9. Des attelages disparates ne pouvaient pas être utilisés pour labourer les champs, Deutéronome chapitre 22, verset 10. Les vêtements ne devaient pas non plus être confectionnés avec des fibres différentes, Deutéronome 22, 11. Donc, ces animaux hybrides et étranges annoncent de mauvaises choses. Donc, regardons les trois premières bêtes, les versets 4 à 8. Alors, verset 4, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Le premier animal est donc un lion, le roi des animaux, avec des ailes d'aigle, l'oiseau qui domine dans le ciel. Le lion et l'aigle étaient des symboles de Babylone. On trouve ça dans Jérémie, au chapitre 4, au chapitre 49. On trouve aussi dans Ézéchiel l'image de l'aigle. Et je lis pour vous, Jérémie chapitre 4, verset 5. « Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. » Et Dieu s'adresse à Juda quand il dit « Annoncez à Juda, publiez à Jérusalem. » Donc nous sommes là dans Jérémie chapitre 4. Ézéchiel reprend l'image de l'aigle pour Babylone, Ézéchiel chapitre 17, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle, aux longues ailes, aux aigles déployés, couvert de plumes de toutes les couleurs, vient sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. L'aigle, bien sûr, fait référence au roi de Babylone qui va emmener les captifs de la lignée royale, ainsi que d'autres Judéens. Et quand on lit la suite du chapitre 17, eh bien, on voit bien, il est clairement mentionné qu'il s'agit donc de Juda, du peuple de Juda. Le cèdre, bien sûr, le cèdre est le royaume de Juda. Alors, la puissance de l'aigle réside bien sûr dans ses ailes. C'est avec ça qu'il peut voler haut, qu'il peut aller vite, et aussi qu'il peut soulever des charges aussi lourdes que lui. Mais arraché à l'aigle ses ailes, il devient un animal inoffensif, il devient statique. Alors, le premier animal, le lion avec des ailes d'aigle, passe par trois phases. Il est d'abord puissant, ensuite il est faible, et après on voit qu'il reçoit un cœur d'homme. Le premier animal correspond à la tête de la statue d'or dans le chapitre 2 de Daniel. Et il s'agit bien sûr de Nebuchadnezzar à qui Dieu avait donné tous les pouvoirs. Reportons-nous rapidement à chapitre 2 de Daniel, à partir du verset 31. Et donc il y a un parallèle entre les bêtes chapitre 7 et les différentes parties de la statue de Daniel chapitre 2 verset 31. Le songe du roi Nebuchadnezzar, au roi, donc Daniel chapitre 2 verset 31, « Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire, et était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Voilà. Donc la description de la statue, la première partie de la statue correspond à Nebuchadnezzar, et Dieu lui avait donné la domination, nous lisons verset 38, sur les enfants des hommes, les bêtes des champs, les animaux du ciel. Et Dieu avait fait Nebuchadnezzar dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. On retrouve cela ici. Et puis en chapitre 4, nous avons déjà étudié ce chapitre, on voit que Nebuchadnezzar a un autre songe de cet arbre, et on sait que Dieu va l'humilier. Il va être comme le bœuf, il va manger l'herbe des champs, il va être arrosé par la rosée qui tombe, qui est là. Et puis on lit au chapitre 4, au verset 33, vous pouvez tourner avec moi la page. Donc chapitre 4, verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé au milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. On peut dire là qu'il avait seulement l'apparence de l'aigle sans en avoir la force. Et ça correspond au moment où les ailes lui ont été enlevées. Et puis qu'est-ce qui se passe après? Un cœur d'homme lui est donné. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Voilà, un cœur d'homme lui fit donner, et Nebuchadnezzar, sa gestion a été plus humaine, alors qu'avant, il dominait tout, il avait droit de vie et de mort sur tout le monde. Donc voilà le premier animal, un lion avec des ailes d'aigle. Le deuxième animal est un ours dressé sur son côté, verset 5, nous revenons à Daniel. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Voilà, le royaume qui a succédé à l'Empire de Babylone, ça a été bien sûr le royaume médo-perse, avec, on voit Darius au chapitre 6, et l'ours qui est décrit là, et plutôt vorace. Il faut savoir que l'ours est un animal caractéristique des hauts plateaux perses. Et l'ours qui est décrit dans le verset 5 est plutôt vorace. Voilà. Il a trois côtes dans la gueule et on lui dit « Lève-toi et mange de la chair, beaucoup de chair ». Historiquement, la Perse a dominé un territoire bien plus vaste que l'Empire de Babylone. Et les trois côtes pourraient représenter les trois principales régions conquises par les Perses. On regarde au chapitre 8, au verset 4. Alors, au chapitre 8, au verset 4, le bélier qui représente les Mèdes et les Perses, On voit ça au verset 20. Donc, lisez le verset 20. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Daniel 8, 20. Et nous revenons au verset 4 où il est parlé de ce bélier. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer sa victime. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Alors, ces trois côtes dans la gueule peuvent représenter ces trois régions conquises par les Perses, l'Occident, le Septentrion et le Midi. On voit aussi que la bête, l'ours, se tenait sur un côté, peut-être un reflet de la dominance des Perses dans l'alliance médo-perse. Et le chapitre 8 effectivement nous parle un peu de cette dominance quand il parle de cette corne. Alors, Daniel chapitre 8, et verset 3. Je levai les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Peut-être pour signifier cette dominance perse dans l'alliance médo-perse. Voilà. Alors le deuxième animal donc était un ours qui était penché sur un côté. Le troisième, au verset 6, après cela, vous voyez, les royaumes se succèdent les uns après les autres, aucun ne dure éternellement. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Il semble que deux caractéristiques de cet animal soient la rapidité, les ailes et la puissance. On n'a jamais vu un oiseau avec quatre ailes. Et donc, quatre ailes, ça lui permet d'aller encore plus vite. Et puis, les oiseaux ont cette possibilité de franchir les obstacles que les animaux terrestres ne peuvent pas franchir, parce qu'ils sont dans les airs. Voilà, donc, cette vitesse. Et regardez, toujours au chapitre 8, donc chapitre 8, verset 8 d'abord, le bouc devint très puissant. Alors, on peut regarder... Au verset 21, le bouc, bien sûr, c'est la Grèce. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande cohorte entre ces dieux, c'est le premier roi. Donc, je reviens au verset 8 du chapitre 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer aux quatre vents des cieux. Voilà. Ce bouc se déplace avec une grande agilité, une grande vitesse. Et ça nous rappelle qu'Alexandre le Grand a conquis rapidement, avec ses quatre généraux, beaucoup de territoire, très très rapidement. La première corne d'abord, et ensuite quatre cornes, peut-être ses quatre ailes, ses quatre têtes. Donc, d'ailleurs aussi le chapitre 8 nous confirme cette impression de rapidité au verset 5 encore. Quand on lit, comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Il allait vite, sans la toucher, rapidement, en rasant la surface de la terre. Enfin, il y a le quatrième animal, versets 7 à 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux, il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Remarquez que tous les animaux avaient quelque chose qu'on pouvait... ressemblait un peu à un animal terrestre. Il y avait d'abord le lion, il y avait ensuite l'ours, et le troisième est un léopard. Mais cette bête ne ressemble à rien de ce qui est connu. Elle est vraiment différente des trois premières. Et puis, on voit que son comportement est destructeur, extrêmement destructeur. Alors, trois choses déjà, premièrement, sont soulignées au verset 7. Alors, l'animal était terrible, première chose. Il était épouvantable, deuxième chose, extraordinairement fort. Voilà. Il y a une puissance, une terreur que cet animal inspire. Ensuite, on voit que on voit que cet animal est là pour dévorer, pour fouler. Par exemple, ses dents, il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et avec ses pieds aussi, il foulait aux pieds ceux qui restaient. Voilà, ses extrémités, aussi bien la bouche que les pieds, lui permettaient de tuer d'une façon atroce. Et puis, voilà, on voit aussi que ses capacités destructrices, sont multipliées. Les animaux, généralement, ont seulement deux cornes, ou peut-être une corne, comme le rhinocéros. Mais cet animal, ce quatrième animal, épouvantable, terrible, il a 10 cornes, pour montrer que sa puissance est multipliée. Voilà, et voilà. Démultipliée même. Et puis voilà une petite corne mystérieuse, au verset 8, qui va sortir du milieu des 10 autres cornes et qui va évincer 3 premières cornes. Ces 3 premières, verset 8, hein, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et les 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et puis il semble que cette petite corne a un aspect humain. Voilà, on dit, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche. Et il y a rien d'humain pourtant dans son comportement, parce qu'on voit que avec cette bouche, elle parle avec arrogance. Son cœur n'est pas un cœur doux, mais c'est un cœur violent. Sa bouche tient des propos arrogants. Voilà donc la description des 4 animaux que Daniel voit. Et on peut faire donc le parallèle avec chapitre 2 de Daniel. Le lion avec ses ailes qui représente l'empire babylonien. L'ours avec les 3 côtes dans sa bouche qui représente l'empire des Mèdes et des Perses. Le léopard, l'empire grec. Et puis enfin, le dernier animal avec ses 10 cornes, l'Empire romain. Eh bien, voilà, alors que c'est le ravage, hein, il y a des ravages sur la terre, on est maintenant, Daniel a une vision. Daniel a une vision, et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit une cour qui est dressée, et nous sommes là, chapitre 7, versets 9 à 14. Alors, nous a dit au verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Voilà, Daniel décrit la cour. Alors, c'est une cour de justice, et elle est grandiose. Et ça nous rappelle un peu l'Apocalypse, avec la description de l'Ancien des Jours, ses cheveux blancs, voilà, sa robe blanche. Hein. Alors, Daniel a la vision d'une cour de justice grandiose. L'Ancien des Jours, Dieu le Père, est présent. Son trône, nous est-il dit, est entouré de feu. Et le feu est le symbole de la pureté. Vous savez que le feu purifie tout. Un symbole de la puissance. Ceux qui le servent aussi et qui se tiennent en sa présence sont nombreux. Il nous a dit 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. De nombreuses expressions soulignent la droiture de cette cour de justice. Tout d'abord, Dieu le Père est appelé l'Ancien des Jours. Le juge principal est âgé. Et vous savez que quand vous êtes âgé, vous bénéficiez d'une certaine expérience. On nous dit aussi, plus loin, que l'Ancien des Jours est assis, il s'assit. Rien n'est fait dans la précipitation. Dieu prend le temps d'examiner toute chose afin que justice soit rendue. Il nous a dit aussi, au verset 10, nous soulignons la présence de nombreux témoins. Aucun jugement ne sera fait en cachette. Mais tout sera fait publiquement et en toute transparence. Et nous lisons ensuite après que les juges, c'est la fin du verset 10, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les jugements ne sont pas rendus dans la précipitation, ni sous la base d'éléments flous, ni en cachette, ni sur un coup de tête. Et pour que rien ne soit oublié, tout est consigné par écrit. Un proverbe chinois dit que la plus pâle des encres est la meilleure mémoire. Eh bien, tout est consigné, jour après jour, année après année, depuis que l'homme existe, pour que ce qui est rendu au jugement soit juste. Et quand on lit le verset 9 et les versets suivants, on voit que Daniel voit le Dieu éternel dans sa majesté. Il est digne de toute vénération et de toute adoration, comme nous l'avons fait ce matin. Ses cheveux sont blancs comme de la laine, encore un signe de son âge avancé. C'est un Dieu sage, un Dieu pondéré. Son vêtement est blanc comme de la neige. Ses cheveux sont purs, une image de sa droiture. Et des flammes de feu entourent le trône. C'est un témoignage de la justice qui émane de ce lieu de jugement. Pour ceux qui habitent à Babylone, la description que fait Daniel a du sens quand il parle d'un fleuve de feu qui coulait ou sortait de devant lui, ou quand il parle de roues comme un char de feu, versets 10 et 9. Nous savons que Babylone était traversée par l'Euphrate, et la ville ne manquait pas d'eau. Même en période de sécheresse, ce qui n'était pas le cas d'Israël, l'eau coulait à profusion à travers la ville tous les jours. De la même manière, le fleuve de feu qui sort du trône illustre la profusion de la justice et la sainteté de Dieu. Ézéchiel aussi a parlé, Ézéchiel qui a été déporté à Babylone, reçoit la même vision d'un torrent d'eau qui sort de la maison de l'Éternel dans Ézéchiel chapitre 47 verset 1 à 12. Il y a aussi l'image des roues de feu qu'on retrouve dans Ézéchiel et qui est associée au trône de Dieu, Ézéchiel chapitre 1. À Babylone, les chars étaient un symbole de puissance parce que les rois et les personnages importants se déplaçaient souvent en chars, comme en témoignent des fresques murales retrouvées dans diverses villes du Proche-Orient. Alors, nous arrivons au jugement. Les trônes, enfin, la cour est dressée et le jugement est rendu, verset 11 jusqu'au verset 12. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Le quatrième animal a été jugé une fois pour toutes, et c'est son arrogance qui est la cause de sa condamnation. Belshazzar aussi était arrogant, il prenait à la légère, il a bu dans les coupes, il a avec lui et ses grands, dans les coupes qui avaient été ramenées à Babylone, les coupes du temple de Jérusalem. Voilà, c'est pas, on ne joue pas avec Dieu. Alors, cette petite corne qui prononçait des paroles arrogantes, eh bien, a été condamnée, et il nous a dit que l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux ont eu un sursis, une prolongation de vie, mais leur puissance a été réduite. Et au verset 13, on voit que, eh bien, quand tous les royaumes sont passés, il y a un seul qui reste. Verset 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voilà. On voit là que quelqu'un qui s'approche, qui est semblable à un fils de l'homme, il s'approche et la domination lui est donnée. Il n'est pas comme les animaux qui sortent de l'eau, il n'est pas non plus un ange ou un surhomme, il est semblable à un fils de l'homme. Mais il nous a dit aussi, je regardais pendant mes visions et voici sur les lignes des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il vient d'en haut, il ne vient pas d'en bas. Il ne vient pas de la mer, il ne vient pas de la terre. On voit aussi qu'il n'arrache pas le pouvoir. Et vous saviez que les rois succédaient aux autres rois, on renversait un royaume et un autre le succédait. Lui, il n'arrache pas de pouvoir, on lui donne. Il est invité à s'approcher de l'ancien des jours et pour recevoir le règne. Un règne mérité. Et vous voyez, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servent. Il n'y a pas de contrainte, comme c'était le cas à Babylone, où, eh bien, on se rappelle de l'épisode de la grande statue qu'il fallait adorer par contrainte, ou de la rage aussi Nebuchadnezzar qui voulait être prié comme un dieu. Voilà. Eh bien, là, il n'y a pas de contrainte. Les hommes viennent de bon cœur adorer, se prosterner, reconnaître la royauté du Fils de l'homme. Nous reconnaissons là notre Seigneur Jésus-Christ, qui utilisait beaucoup ce terme de Fils de l'homme, en particulier quand il affirmait sa divinité. Et en utilisant cette expression, il nous rappelle sa nature humaine. Il est comme nous. Il a été comme nous. Il a traversé les souffrances, même avant nous. Et il peut compatir à nos faiblesses parce que lui-même est passé avant nous. Les empires terrestres paraissent, prospèrent et disparaissent. Seul le royaume du Seigneur Jésus-Christ demeure éternel. Et c'est un encouragement pour nous de savoir que si nous sommes en Christ, notre richesse est en lui. Nous perdons peut-être beaucoup de choses sur cette terre, des choses qui passent, mais nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons la meilleure part. Alors, Daniel, au chapitre 15, au verset 15, est troublé. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Voilà, Daniel et cette petite corne et toute cette vision le troublent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va rester là? Non, il va chercher, il va s'approcher et demander des explications. Verset 16, « Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là, un messager divin, un messager céleste qui était là, et je lui demandais de me révéler la vérité sur toutes ces choses. » Il me répondit et m'en fournit l'explication. C'est quand ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Daniel désire mieux comprendre la révélation. Il lui est dit que, au verset 17, que les animaux sont des rois. Et c'était quelque chose de logique pour quelqu'un qui habitait à Babylone, parce que sur les murailles de la ville, il y avait beaucoup d'animaux étranges qui représentaient différentes puissances, terrestres ou célestes. Et puis la deuxième explication est réjouissante. Verset 18, « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Les saints du Très-Haut n'avaient pas été mentionnés jusque-là, il avait été parlé du Fils de l'homme, mais là il nous est parlé des saints du Très-Haut. Et là c'est encourageant. Et voilà que Daniel s'interroge maintenant sur le sort des fidèles durant la fin des temps et l'ange va lui fournir des explications. Alors, Daniel, des versets 19 à 22, complète la description de la quatrième bête. Et il dit au verset 19, « Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible. » Qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Voilà, Daniel revient sur la description de la quatrième corne. Il rappelle que cet animal est différent de tous les autres, extrêmement terrible. Il a des dents de fer. Et on reprend un peu ce qu'on a vu au verset 7. Il mange, il brise, il foule aux pieds ce qui reste. L'animal a 10 cornes, c'est déjà dit au verset 8. Et une autre corne sort du milieu d'elle, à la place de la troisième corne, c'est dit au verset 8, et nous le voyons ici au verset 20. Mais Daniel ajoute quelque chose, que l'animal a des ongles d'airain, au verset 19, et que la dernière corne en a une plus grande apparence que les autres, verset 20, et surtout que cette corne fait la guerre aux saints et l'emporte sur eux. Ça c'est attristant, c'est affligeant, voilà. Cette corne fait la guerre aux saints, c'est une souffrance pour Daniel. Mais verset 22, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et voilà que l'ange va fournir à Daniel quelques explications complémentaires. La même information sur le quatrième animal va être reprise, va être répétée. C'est la troisième fois que nous avons cette description du quatrième animal qui est différent des autres, qui dévore toute la terre, la foule et la brise, au verset 23. Toutefois, le messager céleste souligne que, au verset 23, que le quatrième animal, c'est un quatrième royaume, pas un roi, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foule et la brise. Elle dit aussi que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Voilà. Il souligne aussi que, au verset 25, qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Vous savez que quand on passe par des épreuves, le temps nous paraît toujours long. Et là, on voit qu'il y a d'abord un temps, au singulier, des temps où le temps se prolonge, et puis brusquement la moitié d'un temps, ça s'arrête. Le temps de persécution semble toujours trop long pour ceux qui sont opprimés, mais Dieu ne permettra pas que cela dépasse le temps que lui a prévu. Il est au contrôle de tout cela. Et on retiendra que finalement, cette idée qui est reprise au verset 27, 26 déjà, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà une pensée qui est forte, que Dieu finalement a toujours le dernier mot, qu'il dirige toutes choses depuis son trône. Il n'est pas pris au dépourvu. Il connaît chaque action des hommes et tout est consigné. Et on voit à la fin, au verset 28, ici finir les paroles. « Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. » Daniel est troublé. La persécution des saints ne peut pas vous laisser indifférent. Il est troublé. Il est même atteint physiquement. On voit qu'il change de couleur. Mais le prophète continue de serrer les paroles, de conserver les paroles de Dieu dans son cœur, comme Marie, quand elle a eu la révélation qui lui a été donnée. Malgré le fait qu'il soit troublé, ce n'est pas la première fois qu'il est troublé, au verset 15 aussi. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Malgré le fait que Daniel a été troublé, il a cherché à comprendre toujours mieux ce que Dieu a voulu lui révéler. On voit au verset 16 qu'il s'est approché de l'envoyé divin, qu'il a interrogé. Et Daniel a reçu des informations complémentaires. 2 ans plus tard, Daniel va encore avoir une seconde vision qui va compléter la première. Chapitre 8, verset 1. Encore quelques années plus tard, Daniel va recevoir deux autres visions. Pareil pour Jean, 50 ans après la mort du Seigneur Jésus, Jean va recevoir des visions qui vont compléter le canon biblique. Dieu ne veut pas rester caché. Dieu veut se révéler à ses enfants, à ses fidèles. Il désire que nous plongions les regards dans sa parole pour mieux le connaître. Comme Daniel, en face de tout ce qui nous dépasse, nous possédons 3 ressources. Au verset 16, la vérité. Nous avons tout ce qu'il faut. Dieu nous a révélé dans cela. On n'a pas besoin de chercher des songes, de lire dans les songes, dans des visions. C'est révélé là. Nous avons aussi la bienheureuse espérance, l'espérance messianique, sachant que verset 14, 22 à 27, Le royaume, la domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Nous serons avec Christ si nous sommes enfants de Dieu. Et enfin, nous avons aussi cette troisième ressource qui est celle de serrer dans nos cœurs la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit pour qu'elle produise en nous l'amour, la foi et le service pour le Seigneur. Comme Daniel, donc, nous avons ces 3 ressources. Que le triomphe de Dieu et de son Messie est assuré. Le règne, la domination et la grandeur, verset 27, de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Que ces paroles aussi, nous puissions les méditer dans nos cœurs comme Daniel. Et je termine par la prière et nous chanterons un cantique. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Il y a des choses qui paraissent difficiles, il y a des symboles, mais merci, Seigneur, que tu veux pas que les choses soient cachées, mais tu veux te révéler. et nous te demandons la grâce de rester attaché à toi malgré tout ce qui nous trouble aujourd'hui ou tout ce qui peut nous troubler dans la parole, parce que tu nous donneras l'explication par ton esprit. Merci au Seigneur parce que tu nous as placés en toi, nous sommes en Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont placé leur confiance en toi. Et si les épreuves ou la persécution durent un temps, elles ne dureront que le temps que tu auras prévu. Donne-nous la foi de croire que tu es un Dieu qui est bon, qui est toujours avec nous tous les jours et qui est présent même s'il paraît quelquefois loin ou silencieux. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen.